Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie? Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans et de tous les passionnés de la vie en général. Ce fil qui tisse des liens parce qu'il est irrigué de cette audace de liberté qui nous rend plus amoureux de tout et de rien, tout simplement. Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser, au fil de nos épisodes, une grande toile faite de tous ces petits riens en apparence qui, pourtant, forment le sel de nos vies? Car explorer la soie, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement? Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Dois-je encore présenter Brigitte Kessel, notre experte de l'accord entre notre être et l'image qu'il renvoie? Et puisque l'inverse est vrai aussi, Brigitte confirme que le fait de se sentir en harmonie avec son apparence aide également à déployer la beauté de notre personnalité. Alors, pour approfondir ce sujet qui nous tient à cœur, parlons aujourd'hui des couleurs, dont le noir et le blanc font partie. Camailleux, contraste, neutralité, aplat, diversité, etc. Certains de nous jouent naturellement avec les couleurs, tandis que d'autres ont plus de difficultés à les associer, voire tout simplement à les oser. Nous l'avons vu dans un épisode précédent, nous avons tous une palette de couleurs qui s'harmonise avec notre corps, nos cheveux, nos yeux, notre peau. Trouver notre gamme de couleurs nous aide à harmoniser la part visible avec la part non visible de notre être. Aujourd'hui, à travers cet épisode, j'ai envie d'aborder avec toi, Brigitte, la notion des couleurs dans un sens plus profond, plus subtil aussi. Je pense, et tu dois le vivre aussi, que personnellement, il y a des jours ou des périodes où j'ai absolument besoin d'une couleur plutôt qu'une autre. De même, je crois que je ne suis pas la seule à avoir besoin de me changer en cours de journée, pour la simple raison que je ne me sens plus du tout bien avec les vêtements choisis le matin. Et comme ne pas se sentir bien avec ses fringues implique de ne pas se sentir bien dans sa peau, j'ai besoin de changer. Je suppose que tu as déjà eu le cas aussi. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode avec toi Brigitte, j'ai envie d'aller à la rencontre de l'énergie des couleurs et de ce qu'elles véhiculent en nous et au-delà de nous. Merci d'être revenue à mon micro. Première question que j'ai envie de te poser. Pourquoi sépare-t-on souvent le noir et le blanc du reste des couleurs, comme si nous ne savions jamais très bien si ce sont des couleurs ou pas? Qu'est-ce que cela raconte de ces deux couleurs, selon toi?
Rosine, bonjour. Et puis surtout, je voulais, avant de m'aventurer dans la question des couleurs, revenir sur ce que tu déposais, que l'on pouvait changer parce qu'on ne savait pas et qu'on hésitait sur ce qu'on allait porter. Bien entendu, nous avons toutes et tous cette expérience. Et l'idée est en amont de bien se connaître pour bien s'habiller et ne plus jamais hésiter le matin. Pas d'état d'âme shakespearien sur ce que l'on va porter pour affronter le monde et tout ce qu'il nous propose avec liberté. Bon, petite rectification importante quand même. En fait, oui, le noir et le blanc ont une position particulière, alors que techniquement, on ne peut pas dire que ce soit des couleurs, puisqu'on lie la couleur à la lumière, et que le noir est donc l'absence de lumière, et le blanc, la somme de toutes les autres couleurs. Et je pense qu'on peut peut-être dire que ça vient de l'époque d'Aristote, qui le premier a construit une palette de couleurs en observant la course du soleil depuis le début de la journée, c'est blanc, et puis jaune, et puis ça monte, et puis ça redescend vers le noir, tu vois. Et en même temps, les couleurs, c'est toujours une question d'histoire, c'est le reflet d'une vie en société, des perceptions symboliques, etc. Et c'est vrai que ce sont des couleurs un peu à part, puisqu'elles ne sont pas dans la lumière, comme Newton l'a montré, et qu'elles ont une position un petit peu particulière, mais nous les utilisons comme telles.
Ok, donc pour toi, ce sont des couleurs comme les autres.
Au niveau du vêtement, oui. Okay. Pas au niveau technique, mais au niveau du vêtement, oui. Et comme c'est le champ dans lequel nous dialoguons toutes les deux, nous allons faire nous allons assumer qu'elles font partie des palettes vers lesquelles nous allons pouvoir nous diriger pour faire des choix.
Ok. Alors, j'aimerais bien justement qu'on développe un peu toute la symbolique des couleurs, mais c'est un sujet extrêmement vaste parce que chaque couleur a sa propre symbolique, sa propre énergie, d'autant plus que le noir, le blanc en font partie. Alors, j'ai envie de te demander de choisir quelques couleurs dont parler, parce que moi je pensais aux couleurs primaires, aux couleurs de l'arc-en-ciel, au noir et au blanc, etc. Mais en même temps, quand je pense à une couleur, je me dis par exemple un vert pomme n'est pas du tout un vert kaki, ni un vert bouteille. Donc comment est-ce qu'on... Quelle couleur est-ce que tu aurais envie de choisir pour parler de leur symbolique et nous aider à entrer un peu dans cet univers plus subtil ?
Tu as tout à fait raison, c'est complexe de parler des couleurs et de leur symbolique parce qu'elles sont très associées à une culture et à la perception de cette culture par ceux qui habitent, ceux qui la vivent, etc. Donc si on prend par exemple le noir, parce que c'est quand même un enjeu primordial, on aime, on n'aime pas, on porte pas, etc. Le noir, il suffit de voir toutes les interprétations qu'on peut y mettre. Il dit tout et son contraire.
Okay.
Il peut à la fois, si tu veux, représenter ce que l'on va trouver de plus élégant, puisque Coco Chanel le recommandait. Et donc, il va symboliser peut-être la volonté de faire partie du groupe, d'être, de ne pas faire de faux pas, d'être accepté par les autres. Et du reste, lorsque tu vois... n'importe quelle scène citadine et urbaine, tu verras une dominante de noir, en tout cas dans les villes occidentales. Tu vois. Et à l'inverse, très paradoxalement, le noir va aussi exprimer pour une frange de la population l'inverse du consensus et de la pensée unique, et au contraire une pensée disruptive. Ça représente l'expression de quelque chose qui se veut décalé, rebelle, à l'inverse même de quelque chose qui serait consensuel. Et ça, c'est très frappant pour le noir. Moi, je le vois souvent dans des soirées, des choses comme ça. Ce qu'on y met derrière comme symbolique est parfois tout à fait à l'opposé de ce que l'autre y met.
Ok.
D'accord. Donc ça, c'est un bon exemple, par exemple, le noir.
Oui. Mais donc, toi, tu vois la symbolique des couleurs à un niveau, j'ai envie de dire, un peu plus... le mot qui me vient, c'est intellectuel. Moi, un exemple que je peux vivre pour moi-même, c'est par exemple si je porte du rose clair. C'est une couleur pour moi qui est assez rassurante. Et c'est pour ça que je parlais de besoin. Tu vois, à certains moments, j'ai besoin d'un rose clair. Et à d'autres moments, j'ai besoin d'un jaune, j'ai besoin d'un vert, des couleurs plus affirmées ou des choses comme ça.
Alors là, il ne s'agira pas pour moi de symbolique, mais de vibration et d'énergie, tu vois.
Okay.
Et donc, nous pouvons voir cette question des couleurs qui est aussi vaste qu'intéressante avec différentes fenêtres.
C'est ça.
D'accord. Et effectivement, quand tu appelles du rose... tu appelles une forme de douceur, une forme de lumière. Alors, il y a rose et rose.
Bien sûr.
Aussi.
Donc, j'entends bien que tu fais une différence entre le symbolique et l'énergétique. Ça, je trouve ça très intéressant, en tout cas. Et effectivement, je pense qu'au niveau énergétique, il y a l'aspect physique de la couleur, ne serait-ce qu'en termes de vibration physique. Mmh. Et du coup, ça, cet aspect émotionnel que ça impacte sur nous. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à... Ben vraiment des choses qui sont que tu observes de manière récurrente dans les couleurs, et par rapport à quelles couleurs est-ce que tu aurais envie de parler de ça?
Alors, ce que je remarque justement, c'est que par exemple, revenons au noir, parce que c'est quand même finalement entre guillemets une couleur importante. Quand les gens portent du noir, ils peuvent avoir énergétiquement l'envie de ne pas être visible, de sortir de la lumière, de se mettre dans l'ombre et de se mêler à l'existant plutôt que de s'en distinguer. Et énergétiquement, c'est vrai que quand on porte du noir, on va absorber davantage. Tu vois, quand tu es dans une voiture noire qui est au soleil, ça va être chaud, tu vas porter beaucoup de choses. Et donc, quand tu portes du noir énergétiquement, tu attires beaucoup. Tout ce qui est autour de toi, toutes les vibrations. Et tu les portes et tu elles te chargent aussi. Donc il faut avoir envie de les porter. On ne verra jamais un hôpital dans lequel les infirmières ou les médecins seraient habillés en noir.
Oui. Bon,
d'accord. On va prendre le blanc pour rejeter ça. Et donc, par exemple, la couleur rouge qui a une vibration très élevée, il suffit d'un petit vernis à ongles rouge, il va apporter une densité vibratoire supérieure aux autres couleurs. C'est Chevreul qui a beaucoup travaillé sur cette question-là aussi. Le vert va apporter quelque chose de plus doux, de plus détendu. Le bleu, il va provoquer la concentration. Le rouge, la productivité. L'orange, le plaisir de partager, le plaisir de communiquer. Et voilà, dans les vêtements que l'on porte, ça a de l'effet sur soi et sur les autres. Mmh. Comme quand on est dans une pièce, dans un habitat, les couleurs ont un impact sur nous aussi. En fait, tu vois. Et donc, c'est vrai. Moi, je suis une grande défendresse de l'accord des couleurs en fonction de notre carnation, hein, de l'existant du corps. Mais en même temps, il faut bien tenir compte de ce que l'on veut envoyer comme message et de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. La même personne, peu importe la saison à laquelle elle va appartenir, aura envie de choisir à l'intérieur de sa palette quelque chose qui va correspondre à un état d'esprit, à un état d'âme, à quelque chose qui se passe en elle et autour d'elle et dont elle a envie de tenir compte. Tu vois, Oui, c'est sûr.
Oui. Et justement, pour en revenir à cette question des nuances dont je te parlais par rapport au vert, mais tu as évoqué le bleu aussi, mais un bleu clair n'est absolument pas, n'a pas pour moi la même vibration qu'un marine, par exemple, qu'un bleu marine. Donc là, à nouveau, comment est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur justement cette grande variété dans, au sein d'une même couleur ?
Ça a à voir, en fait, donc, de toute façon, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que à travers les différentes saisons, les palettes de couleurs, le même bleu n'aura forcément pas les mêmes nuances.
C'est ça.
Un bleu marine d'hiver va apporter l'assertivité, le positionnement de leadership de l'hiver, tandis qu'un bleu plus doux, presque poudré dans l'été, va y insuffler toute la nuance que l'été est capable de placer dans sa perception du monde et l'harmonie qu'il veut y apporter. Et donc, c'est vrai qu'on va avoir des rouges tomates ou des rouges cerises. Ce ne sont pas les mêmes, en fait. Et donc, ils vont, de la même façon qu'ils correspondent à notre carnation, envoyer un message différent. Et donc, il faut toujours repartir de ça et ne pas lier le choix des couleurs qui nous vont à notre subjectivité. Parce que ça, c'est un grand piège. Nous sommes souvent attirés par les couleurs qui nous font du bien, celles qui nous attirent. Ce ne sont pas nécessairement celles qui nous vont.
Okay.
Attention, ça, c'est le grand piège et c'est celles qui vont nous faire du bien. Alors j'ai dit, à cet endroit-là, choisissez un élément de décoration, quelque chose que vous voyez et qui va vous nourrir par l'extérieur et qui va compléter ce que vous êtes vous. Mais ne vous laissez pas tenter par des couleurs in extenso. Il faut vraiment bien se connaître pour bien choisir.
D'accord. Et justement, par rapport à tout ça, alors c'est peut-être un préjugé, mais j'ai l'impression quand même que, ou en tout cas j'observe, que dans nos cultures en tout cas, plus rares sont les hommes qui osent les couleurs. Je trouve que dans la garde-robe féminine, il y a beaucoup plus de possibilités. Est-ce que selon toi, c'est de ton expérience, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est purement culturel ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens, peut-être moins de besoin à ce niveau-là ? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à cette différence de palette entre les hommes et de gamme, en fait.
Elle est très signifiante, évidemment. Ça n'a pas toujours été comme ça.
Oui.
Si tu regardes au Moyen-Âge, les hommes portaient évidemment des couleurs.
Oui.
Autant que les femmes. Et c'est quelque chose, enfin, cette monochromie du costume masculin a amené effectivement une monochromie dans leur tenue. C'est en train de changer, peu à peu. Ce qui m'étonne davantage, c'est de voir combien les femmes qui ont une marge de manœuvre extraordinaire finissent par copier des hommes. Combien sont-elles que j'entends à travailler dans le secteur bancaire ou des affaires, etc., et qui, pour se placer en termes de légitimité, vont imiter les messieurs et vont masculiniser leur tenue, alors qu'elles pourraient, par l'espace qu'elles ont de liberté à créer quelque chose qui leur correspond, elles ont beaucoup plus, en tout cas, de possibilités. Et de ce fait, les hommes sont en train de chercher par des détails, par des petites portes de sortie, une façon d'utiliser la couleur pour, même s'ils doivent suivre un code très particulier, qui est un code d'entreprise, montrer qu'ils ont conscience que c'est un code et qu'ils ont derrière ça une conscience de qui ils sont aussi. Ça dépend très fort des milieux, évidemment. La semaine passée, j'étais dans une réunion de coach et je vois un homme habillé en orange, avec un joli chandail brun. Il était bien sûr initié à l'affaire des couleurs. On ne voyait que lui. Il était d'une élégance sublime et extraordinaire et vibrant à travers toutes les souris grises qui étaient là autour de lui, en fait. Et donc, il faisait vraiment la différence. Mais parfois, ce sont des questions de code, en fait. J'ai aussi vu un jour un homme qui avait pris sa revanche simplement par une paire de lacets. Il était habillé tout de noir, c'était obligatoire. Et puis, tout d'un coup, surgissent ces lacets violet qui était juste magnifique, on ne voyait que ça en fait, tu vois, parce que c'était aussi une couleur qui était proche de rouge et qui donc était très vibrante sur un tapis, un écrin noir en fait. Et donc voilà, les hommes cherchent et il me semble en tout cas vouloir et souhaiter aller vers la créativité pour pouvoir à leur tour jouer avec ces palettes en fait. Mais pour moi c'est effectivement principalement des conventions, des codes qui sont liés à la révolution industrielle où les hommes ont commencé à s'habiller avec ce costume noir qui avait ses raisons d'être. Parce que quand tu portes une couleur qui est la même entre le haut et le bas, optiquement, on va créer un alignement, tu vois. Ça, c'est le costume militaire, c'est le costume d'affaires. Et c'est ce que Coco Chanel, dans sa petite robe noire, a souhaité répliquer pour les femmes, en fait, pour qu'elles soient aussi libres et entreprenantes dans leur vie que les messieurs.
Oui, je comprends. D'ailleurs, on voit beaucoup chez les hommes, moi j'observe ça aussi à travers le carré de soie. J'entends de plus en plus d'hommes qui cherchent à porter des carrés de soie et qui ont du plaisir à les porter parce qu'il y a vraiment une recherche d'une... La femme s'est réappropriée la garde-robe de l'homme, mais maintenant l'homme cherche un petit peu sa propre garde-robe à travers cette démocratisation, j'ai envie de dire, du vêtement... toutes catégories confondues pour la femme, mais la garde-robe masculine demande encore...
Oui, et ils appellent cela et ils le demandent. Les hommes qui demandent cela sont vraiment en appétit de comprendre. Et ça commence souvent par des petites touches. Je ne suis pas étonnée d'entendre le carré de soie parce que c'est une belle façon de commencer à incliner, en tout cas, les pratiques anciennes.
Et alors, justement, par rapport aux époques, parce que la mode a quand même une forte influence sur ce que l'on va porter, les couleurs qu'on va choisir, etc. Là, d'un terme plus général, qu'est-ce que ça dit d'une époque ? Par exemple, là, après quand même deux années assez intenses, on voit que la mode explose de couleurs en ce moment. Qu'est-ce que pour toi ça évoque justement de ce que ça raconte à un niveau plus subtil à nouveau ?
C'est exactement ça. Elle est le miroir et la photographie de ce que l'on vit. Alors, après deux années difficiles où on a broyé du noir, était-il encore nécessaire d'en porter sur soi ? Non, évidemment. Et moi, je me souviens, il y a peut-être 3 ans, j'allais dans les salons à Paris pour voir les collections et je présentais avec beaucoup de naïveté mes palettes de couleurs et je me suis fait rejeter. On m'a dit, mais vous n'y pensez pas, c'est le noir qui fonctionne, etc. Donc voilà, c'est en train de changer énormément parce que la façon dont on s'habille va créer aussi un univers. N'oublions pas, on le sait maintenant en neurosciences, que ce que nous voyons est plus important que la réalité. Donc lorsque tu vois des couleurs, eh bien, quelque chose se colore de ton état d'esprit, de ton mindset, qui va voir que cette réalité qu'on pourrait autrement concevoir comme étant extrêmement grise, lourde, déprimante, on peut l'incliner avec cette force de création de la couleur. Et je pense que c'est une représentation en fait, d'un désir d'apporter de soi dans un monde qui n'est pas facile. D'en faire quelque chose sur quoi on a pris. Ça peut commencer par des toutes petites choses comme ça, en tout cas. Mais donc, j'observe que c'est en train, effectivement, de changer et parce que ça fait du bien. Hormonalement, on le sait maintenant, les anglo-saxons ont vraiment fait des études dans ce sens-là. Les vêtements que nous portons impactent nos hormones. Donc, inévitablement, ça impacte notre état d'esprit et la façon dont on va appréhender la réalité.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai envie de souligner ta magnifique touche de bordeaux, rose, je ne sais pas comment tu appellerais cette couleur, qu'on ne voit que ça, parce que tu as une tenue anthracite, j'ai envie de dire, très sobre, et du coup, ton accessoire, ta fleur, c'est une fleur.
C'est un bleu-gris, Oui. La base est un bleu gris.
D'accord.
Et si j'enlève cette rose, il y a quelque chose d'un peu neutre. Mais il suffit de cela
oui.
pour que tout bascule.
Exactement.
Et voilà, moi j'aime pratiquer parce que ça permet, si tu veux, de commencer la journée très confortable.
Oui.
Et par le simple fait de l'accessoire, apporter une bascule un
oui.
peu plus glamour, un peu plus élégante, un peu plus
oui.
créative, selon les circonstances qu'on va rencontrer
oui.
dans la journée. C'est une question qu'on me pose souvent, tu vois. Comment convertir un vêtement pratique et quotidien dans une tenue un peu plus élégante? Mais l'accessoire
oui.
va pouvoir jouer ce rôle-là, ou les chaussures, ou des
Tout
choses comme
fait.
Ça, tu vois.
Tout à fait. On pourrait continuer des heures, mais je propose qu'on se retrouve dans un autre épisode très bientôt.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.